Radio Alpementcel vous invite pour un cocktail musical. Une émission toute destination, un voyage entre musiques actuelles, musique celtique, musique traditionnelle. Du monde et bien d'autres. Où que vous soyez, à la maison, en voiture, au travail, un délicieux cocktail musical sur le 106.3 FM.
Nous l'avions déjà reçu pour parler du groupe Tulou. Il revient en solo avec un nouvel album aux roses amères. Cet artiste, c'est bien sûr Xavier Plumat, ainsi nous le recevons. Alors Xavier Pluma, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, présentez-vous. Alors déjà, comment vous êtes mis à la musique ?
Je me suis mis à la musique en tant qu'autodidacte, ça fait un paquet d'années maintenant, quand j'étais adolescent. En fait, je suis parti faire des camps quand j'étais jeune. Je pense qu'il y avait je suis sûr qu'il y avait un animateur qui me fascinait le soir pendant les veillées de feu de camp avec sa guitare. Et je crois que c'est ce qui m'a donné envie. Voilà. Et aussi, pour être honnête, j'ai remarqué que lors de ces camps, les filles regardaient plutôt le guitariste que le gars qui savait jongler avec un ballon de foot.
Et justement, vous pratiquez quel instrument ?
La guitare. J'ai pris très peu de cours, je crois que j'ai dû prendre 6 mois de cours quand j'avais 13 ou 14 ans. Et puis ensuite, j'ai essayé de me débrouiller tout seul, notamment en tentant à l'oreille de déchiffrer les albums de Neil Young.
Oui, donc vous n'avez pas une formation artistique ?
Non, pas du tout. Pas académique, en tout cas. Ça me poursuit encore aujourd'hui, d'ailleurs, parce que comme je compose, évidemment, avec le temps, avec les années, à travailler avec la multitude de musiciens que j'ai pu rencontrer, j'ai quand même acquis des connaissances musicales grâce à eux. Mais même encore aujourd'hui, quand je prépare un album et quand je propose mes chansons à des musiciens, et notamment des musiciens de jazz beaucoup plus pointus que moi, souvent ils bloquent sur des accords que je propose dissonants, parce que j'aime bien les dissonances. Et ça m'amuse souvent, parce que sans porter de jugement, mais parce que tant qu'ils n'ont pas nommé ce fameux accord, ils vont pas être capables de le jouer, alors que moi je le joue à l'oreille, puis je me contente du fait que la sonorité m'intéresse, quoi.
Avez-vous l'oreille absolue ?
Pas du tout, je crois pas, non.
Et concrètement, qu'est-ce qui vous a poussé vers cet art, la musique ?
La découverte, comme la plupart des gens, j'imagine, qui décident de se lancer dans une voie artistique, c'est la découverte des autres artistes qui tout d'un coup vous bouleversent ou vous laisse entrevoir la possibilité de ressentir les choses autrement, de se sentir moins seul, d'avoir l'impression tout d'un coup que quelqu'un parle à votre place dans notre rapport au monde, au vivant en général. Donc, j'ai cité Neil Young, mais il y en a énormément, je sais pas, dans les Français. Je sais que ma maman écoutait beaucoup Barbara quand j'étais petit. Donc c'est quelqu'un qui m'a marqué dans le côté peut-être mélancolique. Bon, je vais pas vous faire la liste de tous les gens qui ont pu m'influencer, mais enfin, c'est ça au départ. C'est l'écoute des autres qui m'a donné envie d'essayer moi-même.
Et quel genre de musique vous écoutiez ?
Pas mal de folk. Enfin, la première musique qui m'a vraiment bouleversé et donné envie de tenter les choses de mon côté, en cachette au départ évidemment, c'était plutôt la musique folk. Nick Drake, Harmonium, j'ai fait un groupe pas très connu québécois des années 70. C'était toute la musique folk des années 70. Tim Buckley, il y en a plein, hein, mais voilà, je vous cite ce qui me passe par la tête là à l'instant.
Et vous avez fait bien sûr de la musique votre métier.
Oui, tout à fait. Pas immédiatement, évidemment. Et encore aujourd'hui, ça reste un métier très précaire, mais je me console en me disant que je fais ce qui me plaît. C'est déjà pas mal.
Et vous êtes en effet auteur, compositeur, chanteur et guitariste.
C'est ça.
Et vous avez d'ailleurs sorti un nouvel album, Rose Amère. Alors déjà, c'est le combien d'albums, celui-ci ?
Alors si j'inclus les albums de Tulou et ceux qui sont sortis sous mon nom, je crois que c'est le 17 ou 18e.
Et pourquoi avoir sorti un album solo ?
Alors, en fait, ça a commencé en 2009, où un ami à moi s'est retrouvé, par le hasard de la vie, à toucher une somme d'argent, et il m'a proposé de produire un album sous mon nom. Évidemment, on dit album solo quand il porte mon nom, mais ce sont pas des albums que je fais seul. Simplement, ça me permet de m'entourer d'autres musiciens que de ceux de Tulou, donc de changer un peu de couleur et d'identité sonore. Et donc, en 2009, cet ami m'a proposé de produire un album sous mon nom, et c'est pas quelque chose auquel j'avais forcément réfléchi auparavant, mais j'ai accepté le projet et puis ça s'est très bien passé. Donc c'est un album qui s'appelait La Gueule du Cougar. Et à partir de ce moment-là, j'ai alterné en fait un album de Tulou et un sous mon nom. Ce qui était assez plaisant pour moi parce que du coup ça me permettait de varier. Parce que avec Tulou, c'est le même process, à savoir que c'est moi qui amène les chansons en version guitare-voix. Et ensuite, avec les musiciens de Tulou, on répète ensemble. Et puis, je ne fais aucune direction artistique. Chacun s'exprime comme il a envie de s'exprimer. Et c'est comme ça que les morceaux évoluent et s'arrangent petit à petit. Et donc, en alternant un album de Tulou et un sous mon nom, ça me permettait de confronter mes chansons à d'autres univers sonores en invitant d'autres musiciens. Donc, j'en ai, depuis celui-ci, j'en ai fait, je crois que c'est le 4e sous mon nom, là, Rose Amère.
Et cet album, pourquoi l'avoir appelé Rose Amère ?
Alors ça, c'est une référence à un livre de René Daumal qui s'appelle Le Mont Analogue. Et c'est un livre culte, pas forcément très connu, mais qui a la particularité de ne pas se finir. Il s'arrête au milieu d'une phrase puisque l'auteur est mort avant de pouvoir finir le livre. C'est un bouquin assez fascinant sur l'alpinisme, mais comme métaphore d'une quête un peu mystique. Bon, je ne vais pas vous raconter tout le livre là, mais dans ce livre, à un moment donné, il y a un petit passage sur une société ancienne, antique, qui vivait dans la montagne en haut de laquelle poussait la rose amère. Bon voilà, je ne vais pas développer plus parce que sinon ça va nous prendre des heures, mais ça me tenait à cœur de faire référence à ce livre parce que c'est un ami à moi, Jean-Gilles Bader, un ami peintre, qui a réalisé d'ailleurs une des pochettes de Tulou, qui m'a fait découvrir ce livre, et cet ami est parti cet automne, donc je voulais lui rendre hommage à travers ce titre.
Et quel est le thème de cet album ?
Alors le thème, je ne sais pas, c'est difficile de résumer, mais il y a un journaliste qui m'a suggéré quelque chose d'intéressant, en me disant, mais en fait depuis le début dans tous tes disques, tu questionnes le vivant, et ça me va assez bien comme définition. Parce que souvent, on me fait remarquer que mes textes ne sont pas forcément limpides, qu'ils demandent plusieurs écoutes avant de se les accaparer. Et en effet, c'est ce que, consciemment ou pas, plus inconsciemment que consciemment d'ailleurs, je pense, j'essaie d'exprimer le rapport qu'on peut avoir avec le vivant. J'insiste sur le vivant et non pas le terme nature, parce que je pense qu'on fait partie d'un tout et que quand on emploie le terme de nature, on s'exclut. Nous, les humains, du reste du vivant. Alors que je pense, comme les sociétés animistes, par exemple, qu'on fait partie de ce tout et que donc le terme nature n'a pas lieu d'être. Donc dans mes chansons, souvent, les arbres ou les rochers ont des voix et les humains ressemblent à des arbres et tout ça, ça s'embrique et ça se mélange. Et les sentiments du vivant en général sont liés les uns aux autres.
Alors, cet album, comment on peut le qualifier musicalement ?
Je dirais qu'il est assez lumineux. Et ça, c'est grâce aux musiciens qui m'accompagnent. Parce qu'en fait, il se trouve qu'il y a 3 musiciens malgaches sur ce projet. Le percussionniste Bema, de son vrai nom Samuel Rato Fondraeri. Eric Doboka, avec qui je joue depuis des années, puisque c'est également le bassiste de Tulu, qui est franco-malgache. Et puis Astrid Veigne, qui m'accompagne à la voix sur quasiment tous les morceaux, je crois. Et qui, elle, est également camerouno-malgache. Et je crois que grâce à eux, il y a de la lumière, sinon du soleil dans ce disque. Et puis... peut-être un côté plus, j'aime pas le terme, mais c'est pas exotique, mais en tout cas qui s'éloigne ou qui prend une autre direction de ce que j'ai pu faire avant. Mais de toute façon, à chaque fois que je termine un album, ma première envie, c'est d'en démarrer un autre pour justement partir dans un autre univers sonore.
Y a-t-il une chanson phare dans cet album ?
Je dirais qu'il y en a plusieurs, il y en a 3, à mon goût en tout cas, qui sont en tout cas plus accessibles à la première écoute tout de suite, plus accrocheuses peut-être. Il y a Sous un ciel bleu, dont on a fait un clip qui est sorti au moment de l'album, de la sortie de l'album en début juin. Il y en a un deuxième qui s'appelle Toi parler, dont on a fait un clip également qui va sortir ces jours-ci. Et puis un troisième que j'aime beaucoup qui s'appelle Autre lieu, où là on chante la totalité du morceau à 2 voix avec Astrid. Et qui a peut-être une couleur un peu brésilienne d'ailleurs dans la rythmique et dans les harmonies. Et voilà, je citerai ces 3-là comme morceaux phares.
Et sinon, cet album, comment vous l'avez composé et écrit ?
Alors je l'ai écrit et composé principalement pendant le confinement, qui était comme pour tout le monde, une période très étrange où le temps s'était arrêté. Alors, sauf que moi, je vis à la campagne, donc je n'ai pas subi le confinement le plus rude par rapport aux gens qui peuvent vivre en ville. Mais j'avais besoin de me projeter dans quelque chose et d'imaginer que de toute façon, ça allait s'arrêter à un moment. Et donc voilà, je me suis lancé dans la composition de ce disque à ce moment-là.
Et d'où vous est venue l'inspiration des textes et de la musique ?
Alors l'inspiration, la musique, j'en fais tous les jours. Je joue tout le temps, tous les jours. C'est pas toujours aussi productif, mais il y a toujours quelque chose qui vient, et puis tout d'un coup, quand quelque chose m'accroche, c'est à l'instinct, vraiment. Je l'approfondis, je le travaille, et puis je finis par en imaginer un morceau. Et ensuite, les textes, c'est un peu différent. Je marche tous les jours, je pars marcher une heure et demie tous les matins. Mais c'est là que tout d'un coup, les idées viennent. Donc je rentre chez moi avec 3 ou 4 phrases en tête, que je note. Avant, je notais rien, je gardais tout en tête, mais avec l'âge, je dois noter maintenant. Et ensuite, je développe, je digresse, je vois où est-ce que ça va m'embarquer, et puis quand tout va bien, ça finit par faire une chanson.
Et combien de temps vous avez passé à travailler sur cet album ?
Bon, c'est difficile à estimer, ça, parce que, je sais pas, pour le composer de mon côté, avoir une idée assez précise des 10 morceaux structurés, guitare et voix, je dirais que peut-être ça m'a pris 2 mois. Ensuite, le travail consiste à réunir les musiciens qui vont participer à ce disque, à faire quelques répétitions, et puis réserver le studio. Enfin, le studio, c'est pas nécessairement... Il se trouve que là, c'est un vrai studio, c'est la boîte à meux à Saint-Aubin-des-Coudray. Mais j'ai enregistré plein de disques dans des endroits qui n'étaient pas forcément des studios. Et tout ça, c'est une organisation qui fait partie aussi du travail pour considérer que l'album est terminé. Ça prend du coup plusieurs mois. La particularité de celui-ci, c'est que quand on est arrivé... En studio, j'ai proposé le premier matin à tous les musiciens de s'installer tous dans la même pièce. Alors, j'ai toujours enregistré mes albums en live, mais habituellement, on met des casques et puis on s'isole éventuellement dans des pièces pour qu'il n'y ait pas trop de... On appelle ça de la repisse, c'est-à-dire sur l'enregistrement qu'on puisse isoler le son de chaque instrument. Et là, en fait, j'ai proposé d'enregistrer l'album comme si c'était une répétition. On est tous dans la même pièce et on n'a pas de casque. Et... étonnamment, ça a très très bien marché et il y avait une écoute plus attentive, je pense, de chacun des musiciens et en 2 ou 3 prises maximum, tous les morceaux étaient en boîte.
Et concrètement, que dire sur cet album Rose Amère ? Pourquoi venir le découvrir ?
Ça c'est compliqué, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, je sais pas. Je suis pas doué pour me vendre, je peux vous dire que c'est le plus bel album de l'année, mais ça va pas être très convaincant je pense. Je sais pas, j'inviterai les gens à venir l'écouter, alors sur disque et puis également en live quand c'est possible, quand on fait des concerts. Parce que l'idée c'est de créer un instant de communion avec le public où chacun, on va sortir de nous-mêmes, on va sortir de la trivialité de notre quotidien pour un instant, d'une heure et demie, mais en fait ça veut rien dire de structurer la musique en temps comme ça, parce qu'en fait la particularité de la musique c'est qu'elle dilate le temps. Donc quand on joue et quand on écoute en tant que public aussi, parce que je parle aussi en tant que spectateur, en fait on quitte la dimension temporelle dans laquelle on évolue habituellement. Et le temps ou bien se raccourcit ou bien s'élastise, je sais pas si c'est un terme qui s'emploie. En tout cas, le temps devient élastique et on perd un peu cette notion du temps. Voilà, c'est un autre rapport à la réalité que je trouve intéressant. C'est pour ça que je fais ça.
Et où peut-on acheter cet album Rose Amère ?
Partout. J'ai la chance de travailler avec un excellent distributeur qui s'appelle L'Autre Distribution, qui sont basés en Touraine. Et vraiment, il est disponible physiquement, le disque en CD et en vinyle, il est disponible dans tous les magasins de France. Et puis, il est sur toutes les plateformes aussi, Deezer, Spotify, iTunes, toutes quoi. Il est très bien distribué.
Est-ce que vous avez des contacts à nous communiquer pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur votre travail et notamment sur ce nouvel album Rose Amère ?
Alors oui, il y a une page Facebook, une fan page qui porte mon nom, Xavier Plumat, voilà, sur laquelle on peut laisser des commentaires et on peut également m'envoyer des messages. Je réponds à tous les messages. Ça m'arrive d'ailleurs de trouver des concerts comme ça. Je suis allé jouer la semaine dernière en Auvergne, c'était super, dans le pays Jean-Louis Murat, grâce à quelqu'un qui m'a contacté sur cette page Facebook pour me proposer un concert. Voilà. Et puis sinon, j'ai un attaché de presse qui s'appelle Jean-Philippe Béraud, mais sa structure s'appelle Martingale. Et on peut également passer par lui. Voilà.
Et quels sont vos projets ?
Mes projets, c'est de continuer à faire vivre ce disque le plus longtemps possible sur scène. Bon, alors c'est difficile de vendre le concert avec tous les musiciens présents, ce qui est génial quand ça se produit, parce qu'on est quand même 5 ou 6 sur scène quand le saxophoniste est là aussi, puisqu'il y a un saxophoniste, c'est Eric Timon sur l'album qui fait de l'improvisation. Mais je le joue aussi sous plein de formules différentes depuis qu'il est sorti, ça c'est très intéressant, dans des formules plus légères, en trio. Donc des fois c'est guitare, contrebasse et Astrid plus une deuxième voix. Des fois c'est avec un saxophoniste, des fois c'est avec un pianiste. Donc c'est assez rigolo à faire parce que ça change d'univers sonore à chaque fois.
Un mot pour la fin ?
Un mot pour la fin, portez-vous bien tous et respectez le vivant. Intégrez-vous dans le vivant, voilà.
Alors Xavier Plumat, je vous remercie. J'espère qu'à travers cet échange, on aura donné envie à nos auditeurs de découvrir cet album Rose Amère. Je vous dis à bientôt pour un nouvel album. Au revoir.
Merci à vous, à bientôt.